Bien, chers amis, je vais vous parler un peu d'une chose qui intéresse tout le monde tous les jours, la question des prix. Quand vous allez dans un magasin, vous voyez toutes sortes de produits. Sur aucun d'eux, vous ne trouvez la mention « Ce produit est destiné à M. un tel, à Mme une telle ». Non, ces produits qui viennent de diverses fermes, de diverses manufactures, sont là, sur le marché communautaire, pour quiconque les trouve à son goût, à la seule condition qu'il les paye. Dans notre monde moderne, personne ne fait tout ce qu'il lui faut pour lui-même. Le travail est très divisé. Les uns font toujours d'une chose, d'autres font toujours d'une autre chose. Chacun est obligé, après cela, de se procurer des produits faits par d'autres. Et comment est organisée la distribution des produits? Les produits portent un prix. Tel produit est offert pour 1,5 $, tel autre pour 2 $, etc. Puis, les consommateurs viennent au magasin s'ils ont de l'argent. L'argent pour acheter est supposé avoir été distribué pendant la production. Les uns en reçoivent plus, d'autres moins. Quand ils viennent au magasin, ils choisissent dans le lot offert les articles qui leur conviennent. Ils choisissent, mais seulement dans la mesure où ils le peuvent. L'argent dans leur poche est un moyen de choisir, mais le prix sur le produit pose un obstacle ou une limite à leur choix. Si l'argent dans le porte-monnaie est un facteur important, le prix sur le produit est un autre facteur non moins important. Il ne sert pas à grand-chose d'avoir une bonne petite somme en main si les prix sont tellement élevés que la bonne petite somme n'achète pas grand-chose. Tout le monde sait cela, et qui donc ne s'est pas plaint de la vie chère. Le monde ouvrier n'est pas lent à trouver que le salaire de la semaine fond vite devant les prix et ne fait pas entrer grand-chose dans la maison. Mais quelle est la première réaction des unions, des syndicats, en face de cette situation? La première réaction, c'est de demander des hausses de salaire. Puisque je n'ai plus de quoi payer à cause de la montée des prix, je vais demander plus d'argent à mon patron. On s'organise pour cela. Les syndicats ne sont-ils pas là pour voir que les ouvriers aient un pouvoir d'achat satisfaisant? Puisqu'ils ne l'ont plus devant des prix grossis, ils demandent des salaires grossis. On va même jusqu'à faire des grèves, jusqu'à se priver de salaire pendant des semaines pour obtenir de plus gros salaires. Si on gagne la partie, les salaires augmentent. Mais qu'arrive-t-il quand le patron est obligé de payer de plus gros salaires? Son prix revient, augmente d'autant. Tout ce que l'employeur dépense, il est obligé de l'inscrire dans son prix. Quand le prix monte dans une ligne, les ouvriers des autres lignes demandent des hausses de salaire à leur tour, ce qui fera monter les prix des produits de ces autres lignes. Quand les produits des usines ont grimpé, les cultivateurs qui doivent payer les produits sortant des usines sont obligés de payer plus cher. Eux aussi vont être obligés de hausser leurs prix pour pouvoir rencontrer des dépenses plus fortes. Tout sera à recommencer. Et l'on n'aura fait que dresser les uns contre les autres, patrons et ouvriers, producteurs des villes et producteurs des campagnes, avec, en définitive, personne de satisfait. La spirale est interminable et peut aboutir à des désastres, comme dans le cas de ceux qui produisent pour l'exportation. Quand les prix atteignent un certain niveau, le marché est affecté et c'est le chômage. On se tourne alors vers le gouvernement. Si les gouvernements se mêlent de donner de l'emploi, ce sera pour des dépenses publiques qui exigeront des taxes. Ces taxes diminueront d'autant l'argent dans le public. Et si ce sont les gros qui payent les taxes, l'industrie augmentera ses prix. Alors, il n'y a pas de solution? Il n'y en a pas dans le système financier actuel. Et de moins en moins, à mesure que la production augmente en employant moins de salariés. Les ouvriers ont bien raison de dire que le salaire n'est qu'une partie du prix. C'est de plus en plus vrai. Et c'est justement pour cela qu'on perd son temps à vouloir faire les salaires joindre les prix. La solution se trouve dans certains changements à apporter au régime financier de distribution. Les changements que préconise le Crédit social, qui réglerait facilement le problème de répartition et de distribution des produits, quelles que soient les circonstances. Un des changements consiste à hausser le pouvoir d'achat autrement que par une hausse de salaire. Le Crédit social dit par un dividende périodique à tout le monde. Dividende payé, non pas par le patron, non pas par l'industrie, mais par le système financier réformé, par un organisme de crédit national ou provincial chargé de mettre la finance en accord constant avec les faits. Le dividende n'étant pas payé par l'employeur, il n'entrerait pas dans les prix. Il ne s'agit pas ici des dividendes aux actionnaires, qui font certainement partie des prix, mais du dividende social, distribué par un organisme de crédit, provincial ou national, ayant justement pour fonction de faire toutes les opérations monétaires comptables nécessaires pour que la production répondant aux besoins aille aux besoins. Quand tous les produits répondant aux besoins trouvent preneur, tout le monde est satisfait, ceux qui les obtiennent et ceux qui les vendent. Si l'on veut plus de produits, il n'y a qu'à en produire davantage. Le système producteur ne demande pas mieux dès lors qu'il y a des acheteurs solvables. Le dividende à tout le monde, ajouté au salaire aux employés, rendrait les consommateurs solvables, aussi solvables que les prix de revient de la production l'exigent. À tout le monde, disons-nous, un dividende à tout le monde, parce que ce n'est pas un salaire répondant à du travail d'employé, mais un pouvoir d'achat supplémentaire répondant à la production de la machine, de la science appliquée, du progrès, qui sont un bien communautaire. L'idée peut paraître étrange, mais au fond, n'est-ce pas cela que les ouvriers et leurs syndicats réclament lorsqu'ils demandent des hausses de salaire avec des diminutions d'heures d'ouvrage? Ce n'est plus une récompense à leur travail, puisqu'ils demandent plus en travaillant moins. C'est un dividende sur la production abondante, à laquelle ils sont conscients d'avoir droit, même si elle n'est pas le fruit de leurs efforts, mais le résultat de techniques perfectionnées. Le malheur, c'est qu'ils changent ce dividende en salaire, et à cause de cela, ils le font entrer dans les prix. C'est aussi qu'ils changent en salaire pour les employés ce qui devrait être en réalité un dividende pour tout le monde, puisque la production actuelle est due bien plus au progrès qu'au travail individuel. Au lieu de jeter le blâme des prix sur les profits qui sont le salaire de l'employeur ou sur les dividendes au capital privé, pourquoi ne pas demander le dividende social à tout le monde? Outre le dividende à tout le monde, pour ajouter au pouvoir d'achat sans passer par l'industrie, donc sans passer dans le prix de revient, le Crédit social préconise en second lieu ce qu'on appelle l'ajustement scientifique des prix. Non pas la fixation des prix par le gouvernement, ni par une commission quelconque, non, rien de cela, mais un ajustement, une diminution générale du prix à payer par les acheteurs, mais une diminution compensée aux vendeurs par le même organisme de crédit qui est chargé de mettre l'accord entre le pouvoir d'achat et les prix. Ceci est plus difficile à comprendre quand on est habitué à tout voir dans les limites du système financier actuel. Mais tout de même, n'avez-vous pas déjà vu des magasins afficher deux prix? Par exemple, ils mettront prix régulier, $25. Prix de cette vente, $19. Dans ce cas, le prix comptable, c'est $25. Mais le prix à payer par l'acheteur, c'est $19. Qui est-ce qui finance la différence? Le marchand lui-même, obligé de choisir entre sacrifier une partie de son revenu pourtant légitime ou bien faire faillite faute de vendre des produits qui traînent. le crédit social instituerait justement ce système de deux prix, un prix comptable, établi par le producteur lui-même, comme aujourd'hui, comprenant le prix de revient, plus le pourcentage convenable de profit, puis le prix à payer par l'acheteur, qui serait le prix comptable, moins un escompte général, le même escompte sur tous les produits du pays, escompte variant seulement de période en période, selon l'état de la production. C'est en effet un ajustement scientifique et non pas arbitraire, ni un ajustement de banqueroute. L'escompte dépendrait de la somme totale de la production par rapport à la somme totale de la consommation pendant le terme immédiatement écoulé. Si par exemple, pendant les trois derniers mois, le public a consommé les trois quarts seulement de la production offerte, on accorde une escompte de 25%, faisant payer seulement les trois quarts du prix pendant les trois prochains mois. On mettrait ainsi le public à même de pouvoir acheter toute sa production, sauf les augmentations possibles, mais cela se réglerait en déterminant le taux d'escompte pour les trois mois suivants. Le crédit social compenserait l'escompte ainsi statué pour le terme en cours en payant au marchand ce que l'acheteur ne paye pas, de sorte que ni l'un ni l'autre ne souffrirait de cet arrangement. Au contraire, les deux en profiteraient. Tout cela, ce serait mettre la finance au service de la production et de la distribution des produits. La seule chose qui empêche de le faire tout de suite, c'est l'habitude invétérée de se soumettre aux dictées de la finance. Tant que le système financier sera le maître des décisions, on aura beau se débattre classe contre classe, individu contre individu, nation contre nation, on restera toujours dans le chaos. On a de l'ordre dans la comptabilité des prix. On n'en a pas dans la comptabilité du pouvoir d'achat. Et au lieu d'établir un système pour mettre de l'ordre dans le pouvoir d'achat, on critique la comptabilité des prix. C'est absurde. Chez les plaignants de tous les domaines, de toutes les organisations, les unions, les syndicats, les associations de ci et de ça, avaient seulement mis un dixième de leurs énergies ou de leurs sacrifices de temps et d'argent à réclamer une finance de service, une finance conforme aux faits, disons le mot, à réclamer l'établissement du crédit social, il y a longtemps qu'il ne serait plus question de vie chère, ni de friction continuelle entre employeurs et employés, ni de grève, ni de toute cette kyrielle de guerres intestines injustifiables. Quand la capacité de production du pays est capable de suffire à une honnête subsistance pour tout le monde, sans enlever ce que les uns ou les autres peuvent avoir en plus. Les solutions égoïstes, qu'il s'agisse d'égoïsme individuel ou d'égoïsme syndical, d'égoïsme de classe, ces égoïsmes ne peuvent rien régler, et de moins en moins, à mesure que le progrès place devant la population la production de plus en plus libérée du labeur humain. La solution doit être sociale, sans dépouiller personne et sans prétendre abolir les inégalités sociales. La solution, c'est le crédit social bon pour tout le monde, sans nuire aux acquisitions légitimes de personne.